Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, pour nous mettre dans un état de bien-être absolu. Vous avez vu comment je vous vends, Jimmy?
Docteur
Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré aux urgences ou pas d'ailleurs, à tous ces petits bobos et gros bobos qui peuvent parfois toucher nos enfants. Notre invité du jour, c'est Toubib. Il travaille dans un service d'urgence pédiatrique et il va nous décrypter ce qui relève vraiment d'une urgence ou pas. Alors justement, si votre enfant a 42 fièvres, des douleurs abdominales ou encore des petits boutons bizarres qui sont sortis un peu partout sur son corps, pas de panique, on va tout reprendre pour vous donner les clés et surtout savoir comment réagir. La nuit aux urgences, c'est pas vraiment systématique dans la majorité des cas et surtout en ce moment, on préfère tous l'éviter. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, nous ferons un point sur la pharyngite. Ça peut toucher les grands et les petits, ça pour le coup. Mais surtout, savez-vous ce que c'est le pharynx finalement? On fera un peu d'anatomie avec le docteur Jimmy Mohamed tout à l'heure. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de timing plus ou moins long pour atteindre l'orgasme.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Nicole. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, je suis très intéressée par votre émission. Je suis moi-même très gourmande et j'espère avoir trouvé quelque chose pour remplacer le sucre. Je prends du sucre de bouleau, du xylitol. Donc j'aimerais savoir si je peux continuer et me passer de sucre en prenant ça ou si c'est pas très bon pour la santé. Voilà, merci beaucoup, j'espère avoir une réponse. Au revoir.
Alors Jimmy, même si vous êtes un grand spécialiste du sucre de bouleau, je sais que vraiment vous êtes un grand amateur également.
Oui, je lèche des arbres tous les jours, les troncs d'arbres, c'est ma passion.
Allez, on a interrogé plus sérieusement sur le sujet le docteur Arnaud Cocolle, il est médecin nutritionniste à Paris.
Ça peut être intéressant parce que ça maintient le goût sucré. Ce qui est problématique, c'est peut-être l'impact que ça peut avoir sur notre flore digestive. Il y a des études qui montrent qu'en fait, il peut y avoir des méconnaissances quand vous avez des substituts de sucre qui se présentent. Donc si vous prenez du xylitol, qui n'est pas exactement du saccharose, il peut y avoir peut-être une méconnaissance au niveau de la flore digestive qui peut faire que ça peut développer peut-être une mauvaise assimilation ou une assimilation un petit peu perturbée et qui pourrait éventuellement avoir des conséquences sur l'équilibre pondéral à la longue. C'est un petit peu hypothétique, mais actuellement il y a beaucoup de travaux sur la flore digestive, donc on peut attendre d'autres études, mais peut-être pas prendre de façon régulière du xylitol. Moi, je serais pour alterner.
Très bien, les précisions du docteur Cocolle au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va prendre tout de suite une autre question. Celle-ci, elle est pour vous. Elle nous a été laissée par Marina sur notre répondeur. On l'écoute, c'est parti.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je suis positive au Covid depuis 3 jours. Mais bon, ça va, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de grave. Est-ce normal par contre que je n'ai pas perdu le goût et l'odorat comme les autres, comme tout le monde? Et puis, j'ai aussi des brûlures dans la paume des mains et sous les pieds depuis hier. Vous pensez que ça a un rapport avec le Covid?
Alors Jimmy, encore une question sur les symptômes Covid. Hein. Finalement, on en a quand même assez souvent. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ces personnes qui perdent très fréquemment l'odorat, le goût, anosmie, agueusie. Mais ça n'a rien de systématique. On va rassurer tout de suite Marina qui se dit « Mais mince, moi, je n'ai pas comme tout le monde !»
Oui, alors plusieurs choses. Tout d'abord, la perte du goût et l'odorat est associée à une forme plutôt légère de la maladie. Donc, en règle générale, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que probablement, vous n'allez pas faire une forme grave.
Zut, elle ne l'a pas, donc elle va croire qu'elle va faire une forme grave.
En revanche, ouais. Avec le variant anglais, les études montrent qu'il y a moins de perte de goût et de l'odorat. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que cette perte de goût et l'odorat ne survient pas tout de suite dans la phase initiale de la maladie. C'est au bout de 3, 4 jours que vous allez l'avoir.
Au bout de 7 jours, moi, je peux vous dire.
Qu'elle va l'avoir de façon décalée. Et encore une fois, certains qui ne vont avoir que cette perte de goût et de l'odorat seront contagieux dans les 3 jours qui précèdent. Donc il faut être vigilant et c'est pour ça qu'on doit porter un masque en permanence, car on peut être malade sans le savoir.
Pour revenir un tout petit peu, Jimmy, sur cette anosmie agueusie, est-ce qu'on a une idée plus précise de pourquoi finalement il y a ce symptôme, alors qu'après tout c'est quand même un virus respiratoire au
départ? C'est passé de façon complètement banale. Il y a un tropisme, c'est-à-dire une affinité pour le cerveau. Ce virus touche les poumons, on le sait, mais aussi le cœur, les reins, éventuellement le foie, le tube digestif, vu qu'on peut avoir de la diarrhée, mais aussi le cerveau. Et la perte de goût et de l'odorat est fréquemment rencontrée dans d'autres infections respiratoires, mais pas aussi marquée qu'avec le Covid. Donc c'est lié à une atteinte neurologique, et on le sait, Certains patients vont faire un accident vasculaire cérébral à cause du Covid, sans parler des séquelles, pour l'instant, qu'on ne connaît pas très bien.
Elle évoque aussi des douleurs, des brûlures dans la paume des mains, sous les pieds. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on peut attribuer au Covid ou pas ?
Alors, c'est vrai que certains patients l'ont décrit. Brûlures de la paume des mains, des pieds, parfois du cuir chevelu qui les brûlait. Alors, on a dit initialement, bah non, ce n'est pas ça. Et puis, on se rend compte quand même que certains vont développer ces symptômes et avoir le Covid. Donc, il y a des manifestations donc extra-respiratoires, en dehors de la toux et de la fièvre, qui peuvent nous faire dire, c'est du Covid. Raison pour laquelle, bah, dans le moindre doute, faites-vous tester.
Et ces symptômes cutanés, parce que là, on a parlé donc de rougeur, de brûlure, mais il y a aussi des signes un peu d'engelure au niveau des extrémités.
Plusieurs signes dermatologiques.
Voilà. Ces trucs-là, ça reste pas, ça se soigne tout seul, ou est-ce qu'il faut prendre des médicaments en particulier pour soigner les signes cutanés?
Plusieurs symptômes cutanés dermatologiques du Covid, l'urticaire qu'on a vu, a vu aussi les engelures, et puis il peut y avoir au niveau des brûlures des toutes petites taches un peu brunâtres, toutes petites plaques qui passent inaperçues et qui vont quasiment partir sans séquelles. Et lorsqu'on a fait des biopsies, on s'est rendu compte que c'était lié justement au Covid. Donc il faut être prudent, n'hésitez pas à vous faire tester. Si vous avez même un truc un peu bizarre, c'est pas très grave.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Marina qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est Toubib qui va nous rejoindre en studio. Alors Toubib, c'est un nom de plume, vous l'avez compris, car ce médecin se fiche que vous l'appeliez docteur. Ce qu'il veut, c'est vous aider à ne plus finir aux urgences pour vos enfants, pour rien. Et oui, c'est mieux pour tout le monde, surtout en ce moment. Alors on va vous expliquer comment réagir chez vous, identifier les vraies urgences des plus jeunes, un vrai guide de survie. On approche sur Europe 1. Restez bien avec nous.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous Toubib, bonjour.
Bonjour.
Alors Toubib, car c'est votre nom de plume, vous êtes médecin et travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier français. Vous êtes aussi l'auteur de la page Facebook To Be or Not Toubib et du livre dont on va parler aujourd'hui, Urgence or Not Urgence aux éditions First. Ce livre, c'est presque un manuel de survie pour tous ceux qui ont dans leur entourage un enfant, pour les aider à prendre les bonnes décisions, éviter notamment de se retrouver tous en pyjama, moi ça me rappelle des souvenirs ça, à 2h du matin, aux urgences pédiatriques, ou tout simplement de paniquer aussi, hein, parce que ça peut nous arriver, nous, jeunes parents, quand on ne sait pas quoi faire face à des boutons, des fièvres, etc. Alors justement, on va commencer par un truc qui va forcément arriver à tous les parents, ou grands-parents, ou tontons qui nous écoutent et qui auront des petits à garder, à s'occuper. Avoir de la fièvre. Déjà, la fièvre, on va reprendre du début, c'est quoi avoir de la fièvre ?
Déjà, la définition de la fièvre, c'est à partir de 38. En dessous, 37,5, 38, c'est juste un fébricule.
C'est une mini-fièvre.
Voilà, c'est une petite fièvre. C'est mignon, c'est sympathique. Enfin, c'est moins sympathique pour la suite, hein, parce que les parents, ils savent ce qui leur arrive après quand il y a une vraie fièvre. Mais c'est d'abord une définition avec des chiffres au-dessus de 38. Et surtout, ça se prend au thermomètre. Parce que si vous le prenez avec la main, l'affichage digital, il ne marche pas.
Non, c'est
donc
vrai, c'est
du coup, ça ne marche pas du tout.
Moi, je prends avec la bouche, je fais un petit bisou comme ça, il est chaud, ah, oulala.
Ouais, c'est vrai que le dos de la main de la maman est souvent fiable. Hein, quand elle dit qu'il y a de la fièvre, il y en a, alors on ne sait pas dire combien.
Ça
donc
s'appelle
faut prendre...
l'instinct maternel,
et
ça,
ouais, donc il faut prendre la température et on se demande toujours à partir de quand il faut donner du paracétamol. Les parents se demandent est-ce qu'à 38,5
Moi, 37,2
faut...
déjà, je donne.
Hein. Ah oui, ah, c'est vrai, ils vous grillent une cartouche
mais
à ce
non,
moment-là. Mais du coup, à partir de quand justement on donne du paracétamol, ce qui est un chiffre à partir duquel il faut donner quelque chose.
Ça, c'est un débat intéressant parce que j'ai déjà eu aussi avec mes collègues. Et en fait, on s'est arrêté sur le chiffre de 38,5. C'est artificiel. La réalité, c'est que c'est la tolérance de la fièvre qui importe. Donc, c'est-à-dire qu'après 38 de fièvre, si votre enfant tolère mal sa fièvre, là, vous allez donner quelque chose, doliprane, paracétamol, ce que vous voulez. Mais un enfant qui fait 39 de fièvre et qui va très bien le supporter, qui va jouer, etc., il n'est pas obligatoire. Le 38,5, c'est pour donner un repère aux parents, parce qu'il y a quand même des parents qui ont besoin de repères.
D'accord. Donc si le petit, il a 40 hein, depuis une heure, c'est énorme quand même. Pas la peine de débarquer en trombe aux urgences, mais au bout de deux, on peut venir ou comment ça
au
se passe ?
Au bout de 2h47 minutes,
exactement.
À peu près.
À partir de quand on va aux urgences pour de la fièvre, quoi.
2h47 minutes, et
c'est
de
ça.
Préférence, c'est possible la nuit pour
c'est
réveiller
ça.
L'interne de garde.
C'est ça.
C'est bien,
c'est,
ça, c'est très bien.
Ouais. Okay.
Non, il n'y a pas de cut-off par rapport au nombre d'heures par rapport à la fièvre. Si elle est bien tolérée, pour un enfant... on parle des urgences. Hein. Pour un enfant qui tolère bien sa fièvre, il faut l'amener aux urgences systématiquement, même s'il tolère bien, après 5 jours de fièvre bien tolérée.
Ah oui,
mais
je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui tiennent jusque-là. Hein,
mais... Il n'est pas interdit d'aller voir son médecin traitant.
Bien sûr.
Pas du tout, au contraire.
Et souvent, les parents, ils ont l'œil fixé sur le thermomètre.
Vous qui faites de la visite à domicile, je pense que vous êtes confrontés au même problème.
Ils nous font tout un récit sur ça a commencé à 37,8 et puis à 38,2 et puis à 38,4 et puis c'est monté, c'est descendu. Parfois ils ont un graphique, parfois ils ont pris des notes.
Ah oui, il y en a des expériences.
L'historique de la fièvre à travers les âges, où le médecin est en face et dit oui, oui.
Et donc on attend. Mais du coup, est-ce que c'est si important que ça, le chiffre ?
Non, le chiffre, il n'est pas important et c'est ce qu'on... Je me tue personnellement.
Sauf si l'enfant a moins de 3 mois ou rentre d'un voyage.
Oui, mais ça, c'est une exception. Parce qu'en plus, on est français,
bon,
on aime bien
moment,
les exceptions.
Beaucoup,
mais... mais oui, en dessous de 3 mois, c'est très simple. Hein. C'est toujours aux urgences. Mmh. D'accord, il faut toujours avoir une évaluation des enfants aux urgences pour une raison très simple. En dessous de 3 mois, c'est plus fréquemment associé avec une infection bactérienne et ça peut plus fréquemment donc donner des atteintes graves. Donc il faut que ça soit vu. Un enfant va se détériorer plus vite quand il est en dessous de 3 mois et encore plus en dessous d'un mois.
Et au-dessus de 3 mois, du coup, on arrête de regarder le thermomètre et on regarde l'enfant. Parce que
on regarde l'enfant. C'est le message, en effet. C'est ça. Mmh. C'est le message principal. Regardez votre enfant. Mais après, on est dans une génération du numérique. Donc on est obsédé par les chiffres et on en oublie que derrière le chiffre, il y a un petit enfant qui vit. Et qu'il y a un petit enfant qu'on doit regarder.
Voilà. Parce que s'il a 40, mais qu'il joue au Lego tranquillement et tout ça, c'est que tout va bien, en fait, hein, c'est ça.
Mais déjà, oui. Mais d'un autre côté, en plus, ça peut être faussement rassurant. Si un enfant fait 38, mais qu'il est totalement amorphe après le paracétamol, moi, ça m'inquiète.
Voilà. Il y a une autre exception pour laquelle on peut conduire un enfant dans un état fiévreux aux urgences, c'est s'il a une anomalie du CCR. C'est quoi ça ?
Alors, l'anomalie du CCR.
C'est vous qui l'avez inventé ou ça existe ?
Je rends un peu hommage au professeur, dont je ne sais pas le nom, qui l'avait enseigné quand j'étais externe, parce que c'est un truc qui est absolument indispensable. Je pense que ça devrait être donné à la formation de tous les parents. Le CCR, c'est 3 lettres, c'est très simple, c'est la coloration, le comportement et la respiration de votre enfant. C'est 3 choses qui vont regrouper, on va dire, 90% du fait que votre enfant doit être urgemment vu pour le diagnostic, pour le soin. S'il y a une altération d'un des trois, pas les trois, hein, d'un seul des trois paramètres, il faut que
s'il
les
devient
parents
bleu, par
mesure.
Exemple. On aime bien les schtroumpfs, mais c'est pas terrible.
Ça se marie bien avec la couleur du salon, mais c'est pas l'idéal, c'est pas pérenne. Donc la couleur, les lèvres bleues, un enfant totalement amorphe malgré qu'il ait pris du Doliprane, un enfant qui lutte pour respirer, oui, il faut consulter.
Et parfois, les parents nous parlent aussi de marbrures, ces espèces de petites toiles d'araignées, en quelque sorte, qu'on voit sur le corps. Est-ce que c'est quelque chose qui doit alarmer un papa ou un maman chez qui un enfant aurait ça ?
Oui et non. Oui, parce que les marbrures, il faut toujours poser une question. C'est elles sont habituelles ou elles ne sont pas habituelles ? Si l'enfant a toujours l'habitude d'avoir des marbrures dès qu'il a un peu froid, dès qu'il est découvert, voilà. Et surtout, les marbrures, elles n'ont de sens que si jamais l'enfant a les extrémités froides. Donc en fait il y a des problèmes de circulation aux extrémités qui peuvent alerter sur les signes précoces d'un choc. Donc un enfant qui est marbré, c'est sympathique, c'est un peu art contemporain, mais
et on va aux urgences,
c'est pas super, hein.
On vient vous déranger la nuit là pour le coup. Toubib, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, nous allons continuer avec ces conseils très pratiques pour ceux qui ont un enfant à gérer de près ou d'un peu plus loin. On va passer juste après aux gamins qui peuvent parfois se transformer en pizza. Vous savez, ces petites éruptions cutanées en tout genre qui peuvent nous affoler. En réalité, vous allez l'entendre, ce n'est presque jamais grave. Et pour le savoir, on va vous parler du test du verre à faire à la maison pour être fixé. Je suis sûre que ça vous intrigue, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, notre invité en studio avec nous, c'est vous, Toubib. Je rappelle que vous êtes médecin et que vous travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier français. Vous êtes également l'auteur du livre Urgence, hors notre urgence aux éditions First. Et je l'ai dit, on va passer à présent à un autre problème très fréquent chez les enfants. Tout d'un coup, il a des boutons partout. Alors, bébé ou un peu plus grand, en réalité, en fait, il n'y a presque jamais besoin d'aller aux urgences pour ça.
Bah non, d'ailleurs, la preuve, c'est que les dermatologues n'ont pas de garde. Donc, c'est bien pour dire que finalement.
C'est gratuit pour les dermatologues.
C'est le meilleur argument, franchement. Hein, c'est le meilleur argument, mais j'ai jamais entendu.
Ça prouve
déjà
qu'il y a
deux médecins qui vivent un peu la même chose là, sur ce plateau, quand même. Hein. D'accord, ok.
Non, en fait, en réalité, il y a peu, voire pas d'urgence. Par rapport à ça, en gros, on va dire qu'il y a deux grandes choses qui nous intéressent par rapport aux boutons. Quand ça survient avec de la fièvre et que ça ne s'efface pas, et quand il y a une possible allergie.
Varicelle, tout ça, on s'en fiche, quoi, en fait. Hein, pas aux urgences,
tout
quoi,
ça,
hein,
vous ouais. avez un médecin traitant, ou un pédiatre, ouais, souvent très compétent, qui peut le
gérer. Tout
peut
à
le
fait.
Gérer.
Ouais.
Et justement, dans votre livre, vous proposez un test très ludique, très intéressant, pour savoir si une éruption cutanée doit nous alarmer.
Il vous a
ou pas.
Plu, ce test, hein, je Mais sais.
Oui, très bien.
Vous
c'est
dit.
Le test du verre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
C'est un jeu pour boire, non? C'est pas ça?
Ça pourrait être un jeu pour boire. On voit qu'il y a certaines
personnes. C'est un livre pour adultes, on est d'accord.
On voit que certaines personnes ici connaissent bien les jeux pour boire. Non, par contre, en fait, le test du verre. Je l'avoue tout de suite, hein, c'est pas, je suis pas non plus le créateur. C'est inspiré d'une brochure des autorités sanitaires anglaises qui avait un dépliant comme ça en fait, donc The Glass Test, hein, bon, en anglais irréprochable, qui j'ai trouvé était vraiment très bien parce que en gros, quand vous avez une éruption cutanée et que c'est rouge sur la peau, moi je disais simplement aux parents d'appuyer avec le doigt et de voir si le rouge s'effaçait, devenait blanc. Dans ce cas-là, ce n'est pas inquiétant. Mais parfois, c'est difficile de le faire juste avec le doigt. Et avec un verre, vous appuyez
et
juste sur le verre.
Sera un peu plus
et
grosse,
vous voyez à travers le fond du verre si la peau redevient blanche. Et dans ce cas-là, c'est moins inquiétant.
Si c'est blanc, c'est tout bon.
Voilà.
Si ça reste rouge, par
si
contre.
Si ça reste rouge vif, c'est aux urgences, c'est systématique. Et surtout, surtout s'il y a de la fièvre.
Parce que ça pourrait être
Parce que ça peut être un purpura fulminans, qui est un signe finalement en faveur d'une méningite et qui est une urgence vitale absolue en pédiatrie.
Autre pépin ou bobo du quotidien assez fréquent, et bien là on passe au problème digestif des enfants.
Ah, on va parler caca, ça va vous plaire ça. Je sais que vous avez grand chose à dire, Jimmy, dessus.
Les parents ont une passion extraordinaire.
Vous gardez les couches avec des caca, hein, pour montrer la couleur.
Je suppose qu'on doit parfois en ramener aux urgences aussi. Voilà, les
elles arrivent jusqu'aux urgences, les urgences. Aux urgences, les couches.
Les couches arrivent jusqu'aux urgences avec les parents. Il y a parfois des gens qui sont très créatifs, hein, qui ont déjà ramené des bocaux de confiture
avec
le caca. Parce que c'est bien. C'est...
D'accord.
On reste dans l'art contemporain. Vous.
D'accord, c'est ça, c'est moderne.
Et justement, pour que ce soit plus bien clair pour les gens, à partir de quand parle-t-on de diarrhée chez l'enfant?
La définition médicale, en fait, c'est 3 selles liquides par 24 heures, donc par jour. À partir de là, on parle en effet d'une diarrhée. Avant, c'est juste une ou deux selles liquides, ce qui peut arriver quand il y a une infection en cours, notamment virale, et qui est assez fréquent, ou quand il y a des antibiotiques concomitants mis par un médecin.
D'accord. Et vous dites aux parents aussi, donc ceux qui vous apportent les bocaux de confiture, plein de caca, ou ceux qui vous gardent genre les trucs de peinture, pour vous dire, voyez, regardez, ils tirent vers le orange ou tirent vers la couleur du caca, vous vous en foutez. Hein.
Oui, oui et
presque
non.
Presque tout le temps.
Ouais. Oui, presque tout le temps. Il y a des exceptions aussi, pareil. Hein. Il y a un des médecins avec qui je travaille qui avait toujours une phrase intéressante en disant qu'il y avait trois couleurs qui l'intéressaient, le rouge, le blanc et le bleu. Le rouge, je vais y venir. Le rouge, bien sûr, parce qu'il y a du sang dans les selles. Et d'ailleurs, du sang vieilli, ça peut être aussi une selle très noire. Donc, c'est intéressant aussi.
D'accord.
Et après, il y a le blanc, parce que ça peut être un phénomène qui est lié au niveau hépatique. Et le bleu, parce que si vous en trouvez, ça m'intéresse, vous pouvez me le ramener.
Franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je me suis dit, mais mince, mais je ne connais pas
c'est
ce
quoi,
truc
ce
du
bleu.
Lui
se dit, j'ai loupé un cours de médecine.
Non, mais c'est un problème. Alors, quand on parle de diarrhée, on parle souvent aussi de vomissement, symptôme qui est très impressionnant quand on est parent. Est-ce qu'on a deux, trois trucs qu'on peut donner justement aux parents qui nous écoutent, qui aura un enfant qui vomit, souvent, on se sent un peu démuni.
Déjà, on me demande régulièrement sur la page si je suis vendu à Big Pharma. Donc du coup, on va faire un contre-argumentaire. Moi, je vais vous dire juste que pour arrêter les vomissements de l'enfant, il y a zéro médicament à donner. La seule chose qui va se passer quand on a un vomissement chez l'enfant, c'est que l'enfant, il vomit, il fait de l'acétone. Et comme il fait de l'acétone, ça va donner encore moins d'appétit et encore plus envie de vomir. Et on entre dans un cercle vicieux qui ne va jamais s'arrêter, sauf si on apporte, comme je dis aux parents,
du coca,
simple,
ah
du vrai sucre.
Ah non, d'accord, c'est pas du vrai
sucre.
Zut,
exprès, hein. Et si c'est mieux que ce soit pas gazeux et sponsorisé par une grande compagnie américaine, c'est mieux.
Du jus de fruits,
il faut apporter
exemple.
Du sucre de façon régulière, en petite quantité, et ça, genre compote, genre jus de fruits doux, jus de pomme ou des choses de ce genre, qui vont être pris et qui vont resucrer l'enfant. Parfois, il y a des parents qui disent aussi qu'ils ont des bons résultats pour les grands-enfants en donnant simplement des sucettes qui vont pouvoir resucrer un petit peu et faire baisser le taux d'acétone.
Ils sont contents en plus, comme ça.
Exactement.
Alors, dans les problèmes liés au caca, encore une fois, des parents, parce que c'est un grand sujet quand même qui intéresse tous les jeunes parents, les grands-parents, etc. Il y a le côté constipation aussi. Et vous dites dans votre livre, pour savoir si un enfant est constipé, il ne faut pas forcément se fier au nombre de selles qu'il a eues par jour, par semaine, etc.
Non, pas forcément, parce que qu'il faut que la constipation ait un retentissement. Il faut que l'enfant voilà, il soit douloureux, il faut une consistance des selles, et après il faut prendre en compte le paramètre du transit, le nombre de selles, sauf dans certains cas, hein, comme par exemple l'enfant allaité.
Vous avez un record, moi, ce qui m'a fait halluciner dans le livre.
Un record qui est fixé à une selle en un mois, alors que ça n'était pas du tout pathologique.
Pour un bébé allaité, c'est fou, moi, j'aurais pas dit.
Chez un enfant. Mais c'est parce que, justement, il était allaité. On ne parle pas des enfants qui prennent du lait artificiel.
Oui, car le lait maternel est très bien digéré. C'est vrai qu'on peut dire jusqu'à 5 jours sans selle, si un enfant va bien et qu'il est allaité. Au-delà, même s'il y a eu ce record de un mois, bon, mieux vaut de prendre un petit avis médical chez le généraliste, hein, pas besoin d'intérêt.
Oui, on est
d'urgence.
D'accord, hein, on n'est pas pour établir des nouveaux records.
D'accord. Et vous dites quand même aussi aux parents, on va terminer cette partie par ça, mais arrêtez aussi de vous focaliser et de faire participer l'enfant aussi à cette angoisse là autour de la constipation. T'as fait caca, on va y arriver, tu fais caca, il a toujours pas fait caca, docteur. Il faut arrêter de que l'enfant reste dans ce cycle-là.
Ben oui, il faut faire en sorte de faire en sorte que les parents ils soient moins focalisés là-dessus, même si on y consacre parfois des grosses parties des émissions radio.
Il faut faire en sorte que
ça soit moins focalisé, parce que c'est pareil, on entre dans un cercle vicieux. Si vous focalisez l'enfant là-dessus,
il va
ne penser qu'à ça. Ouais. Et s'il va ne penser qu'à ça, il va se bloquer d'autant plus.
Très bien. Toubib, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. On revient très vite avec ce guide de survie pour jeunes parents, futurs parents, grands-parents, tontons, tatis. Bref, si vous côtoyez un enfant, ça vous sera utile, croyez-moi. Les bons gestes, les bonnes questions à se poser pour éviter des heures aux urgences pour rien. Face à un mal de ventre ou même une chute sur la tête, eh bien, on va vous aider à vous débrouiller à la maison quand c'est possible. À ne plus paniquer surtout. À tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est Toubib, vous êtes médecin et travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier français. Vous êtes également l'auteur du livre Urgence hors notre urgence aux éditions First, et on va s'intéresser à présent aux douleurs de ventre des petits, parce que ça c'est un petit peu large et c'est vraiment un truc hyper fréquent chez les enfants, petits et un peu plus grands. Alors il y a dans de nombreux cas, on va pas aux urgences pour ça, mais en revanche si un enfant se tord de douleur littéralement, est tout blanc, la pâleur c'est très important, là il faut quand même ne pas rater une éventuelle invagination. Expliquez-nous ce que c'est.
L'invagination, en fait, il faut imaginer que bon, vous avez le tube digestif, hein, qui, comme je viens de le dire, est un tube et qui peut, parfois, par certains événements, parfois secondairement, parfois juste comme ça, pendant une infection, rentrer sur lui-même. Et du coup, il va se bloquer et il peut nécroser. Et donc, il va falloir, en gros, je ne vais pas dire le déboucher, mais il va falloir le remettre, le réaligner.
Mais la douleur de l'enfant, elle est très caractéristique. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est pas juste j'ai mal au bidon, maman.
C'est ça, ouais. Exactement. C'est un enfant, typiquement, c'est un enfant qui va avoir une douleur vraiment d'un coup brutale, qui va se plier en deux et être blanc, mais alors blanc comme votre
linge,
mur,
quoi, ouais.
Comme un linge, et qui va limite confiner au malaise.
Ah ouais.
Ça, c'est quelque chose qui est en faveur d'une invagination.
Alors, dans les douleurs abdominales, il y a un diagnostic qu'on aime bien, nous les docteurs, parce qu'on a l'impression d'être très forts, c'est l'adénolymphite mésentérique, un nom un peu pompeux et barbare pour dire un truc totalement bénin.
Oui, oui, et puis ça vous fait gagner plein de points au Scrabble.
C'est ça qui est bien. Vous avez des drôles de jeux, les médecins.
Vous pouvez passer vraiment plein de lettres difficiles.
Adénolymphite mésentérique, c'est ça. Alors, c'est quoi ?
Après, si vous le décomposez, c'est assez simple, hein, finalement. En gros, pour vous faire ça court, c'est des ganglions qui sont inflammés autour du cadre digestif, parce que, contrairement souvent chez les adultes, on va dire que ça se draine plus facilement dans le cou, alors que là, en fait, ça va se drainer autour du cadre colique quand il s'agit de débarrasser de l'organisme du virus. Et ça va faire que l'enfant, ses ganglions, ils vont gonfler, ils vont prendre la place autour de l'intestin, et ça va lui faire mal, ça va faire des coliques.
Mais parce qu'il a autre chose, en fait, c'est ça ?
Parce que oui, c'est concomitant d'une infection. Il peut avoir un virus, il peut avoir une angine, il peut avoir une pharyngite, et il peut avoir des douleurs en même temps. Donc vous aurez imaginé à quel point c'est fréquent, surtout en hiver.
C'est ça, donc, mais là, on ne s'inquiète pas, on ne va pas aux urgences pour ça non plus.
Si la douleur, elle reste... elle va et elle vient. Tout simplement parce que la grande différence, parce que ce qui est embêtant avec la douleur infectieuse mésentérique, c'est qu'elle peut mimer une pathologie hyper courante qui s'appelle l'appendicite.
D'accord. Mais qui n'est pas si fréquente que ça, parce que ça, c'est
si
une grande crainte des parents. Hein. Quand mon enfant a mal au ventre, on veut tout de suite être sûr qu'il n'a pas l'appendicite.
Oui, mais c'est logique. Mais c'est pas si fréquent que ça. Parce que on va dire qu'il y a 80% des enfants que je vois passer aux urgences qui ne finissent pas au bloc opératoire pour une appendicite. Ce qui est en fait caractéristique et qui change entre les deux, pour moi, ce que je donne au repère comme pour les parents, parents, c'est que la douleur, elle va être constante dans l'appendicite. Une fois que l'appendice commence à s'inflammer, qu'il va évoluer vers une péritonite, en gros, la douleur, elle ne va pas s'envoler magiquement.
Il n'y a pas de moment de calme. Quoi.
Voilà, ouais. Et elle va être de plus en plus intense, se fixer de plus en plus à droite et empêcher l'enfant de faire des mouvements.
C'est toujours à droite, hein, ça ne peut pas être à gauche. Hein.
Ça peut être à gauche de façon exceptionnelle quand l'enfant il a une anatomie un peu particulière, mais ce n'est pas la règle, bien sûr.
Autre bobo, un peu plus urgent cette fois-ci, c'est lorsqu'un garçon va se plaindre de ses testicules, une douleur testiculaire. Eh bien, qu'est-ce que le parent doit faire dans ces cas-là ?
Aller aux urgences.
Direct,
très okay. simple.
Même s'il a juste
c'est
pris un
truc,
coup.
Mais c'est un truc très ignoré par les parents. Hein. C'est un truc sur le fait qu'on on se lamente souvent aux urgences de ça. Les chirurgiens sont les premiers à se lamenter parce qu'ils adorent se lamenter des chirurgiens de toute façon.
Allez, on a fait les dermatos, un petit coup des
voilà.
chirurgiens.
En gros, vous pouvez avoir une torsion testiculaire. Hein, donc, c'est simple. Hein, la noix de coco pend à son arbre et la noix de coco va se tordre.
Ah oui, elle est
donc,
bien accrochée à quelque chose, la noix de coco.
Détordre, ouais, ouais. Parce que sinon... Ben, ça ne passe plus, ça fait garrot, et le testicule va mourir. Heureusement, pas l'enfant, mais le testicule va mourir.
On ne sera pas grand-parents, quoi, mais ça peut être très grave.
Après, vous avez une chance sur deux,
c'est ça,
logiquement. Mais c'est une urgence horaire. Vous avez 6 heures après le début de la douleur testiculaire pour détendre le testicule, que le sang repasse et qu'il réirrigue le testicule. Au-delà, vraiment, si vous arrivez genre à 8-10 heures après la douleur, une douleur intense, hein, souvent, dans ce cas-là, vous n'avez plus grand-chose à faire. Vous enlevez le testicule, c'est tout.
Et justement, peut-être attention aux ados, j'en ai pas vu beaucoup des torsions, mais quelques-unes et des ados qui n'osent pas dire qu'ils ont mal aux testicules. Ils vont dire parfois.
Vous avez déjà rencontré ça en consultation, vous l'aviez dit.
Ouais. Ils n'osent pas, donc peut-être aux parents de leur demander vraiment s'ils ont mal à cet endroit-là.
Oui, tout à fait. C'est aux parents de demander. Parfois, c'est aux parents même si c'est difficile quand ils sont ados, de regarder. Et aussi, d'ailleurs, même aux médecins qui nous écoutent, de regarder.
À l'œil, on voit quelque chose. Ouais.
Il faut toujours, quand il y a une douleur abdominale, surtout chez un ado, regarder les testicules. Ça va être augmenté de volume, ça va être douloureux, ça peut être rouge, ça peut être chaud, etc. Et du coup, ça se voit. C'est quelque chose qui va être évident et c'est bête de le louper, en fait.
D'accord. Et on va prendre un autre pépin de santé qui peut arriver un jour à notre enfant. Admettons, il se fait piquer alors par une abeille, une araignée, on ne sait pas, un moustique éventuellement. Là aussi, vous dites dans votre livre, pas la peine de nous les amener pour ça. Hein, une piqûre, on s'en fout en fait finalement de savoir si c'est araignée, moustique ou autre. D'ailleurs, vous n'êtes pas spécialiste en insectes, je crois.
Non.
Vous en voyez pas mal quand même.
On essaye parfois de faire des concours aux urgences sur qui va trouver ce que c'est. Bon, on n'y arrive jamais. Mais non, ça ne va pas. Il y a plein de photos qui circulent où on voit, voilà, c'est telle forme de piqûre, ça peut être une araignée, ça peut être un moustique. Bon, qu'est-ce que ça va changer en pratique ? Pas grand-chose, parce que tout ce qu'il faut limiter, c'est le fait d'avoir une infection sous-cutanée sur le fait que ça soit mal nettoyé.
Donc on fait quoi ? On désinfecte, c'est tout.
Voilà, oui, basiquement, vous nettoyez, vous rassurez l'enfant et tout va bien se passer.
Sauf
si vous vivez dans un pays tropical, hein, soyons clairs, hein, c'est pas la même chose.
On parle de la France métropolitaine.
Voilà, on n'a pas les mêmes moustiques ici que outre-mer. Hein, donc,
Mais justement, suite à une piqûre, s'il peut y avoir une complication grave, on va dire, en général, une suite allergique, ça se voit très vite, quoi, c'est ça, c'est pas...
Mais très souvent, c'est la réaction d'anaphylaxie. On en parle beaucoup avec justement les vaccins. Et ça, c'est quelque chose qui arrive vite et qui se voit. Les signes d'alerte, ils sont simples. Votre enfant, il a du mal à respirer, il a du mal à ravaler ou il a des douleurs abdominales intenses. Ça, c'est tout de suite.
Alors, autre bobo de l'hiver, c'est la bronchiolite. Un enfant qui va du coup avoir la bronchite des bébés, pour faire très simple. Parce que c'est quelque chose qui angoisse les parents quand on leur annonce le diagnostic, qu'on a l'impression qu'on...
Ils sont si petits, les pauvres.
Quand ils sont petits, oui. Mais justement, qu'est-ce qui doit faire conduire un parent aux urgences quand l'enfant souffre de bronchiolite, vu que ça passe dans l'immense majorité des cas tout seul ?
Ce qui doit leur faire les alerter, bon, on reprend, hein, parce que souvent ils ont de la fièvre de façon concomitante, donc on reprend le CCR déjà, premier point.
Attendez, j'ai retenu, c'est coloration, comportement, et le R, c'est respiration.
Parfait.
Je suis une bonne élève.
Parfait, c'est bon, vous pouvez prendre ma place aux urgences, ça me permettra d'avoir des vacances. Plus sérieusement, en fait, ce qui doit alarmer les parents, je dirais que c'est un enfant qui va respirer comme une locomotive, hein, il va respirer très très vite, il va lutter, il
on
va
voit,
tirer.
Au niveau du ventre,
ça va creuser.
D'ailleurs, ouais.
Donc ça, c'est un truc qui doit quand même avoir... Il doit y avoir un œil médical à un moment ou à un autre, que ce soit aux urgences ou par un médecin de garde, hein, par ailleurs. Mais ça doit alerter. Ensuite, C'est l'enfant qui va beaucoup moins manger, notamment les bébés qui prennent moins de la moitié de leur biberon. Il faut y aller voir parce qu'en fait, ils sont tellement occupés à respirer qu'ils n'ont plus le temps pour aller manger. Et ça, c'est inquiétant. Ça prouve qu'ils évoluent vers la fatigue de leurs muscles respiratoires et ça devient inquiétant. Et après, bien sûr, on revient à ce que je vous ai dit, mais ça, c'est important aussi, c'est le comportement. Parce qu'il y a des enfants qui vont avoir une bronchiolite et qui vont très bien le supporter. Ils vont être toniques, ils vont être souriants. Ça s'appelle des happy weasers, pour mettre un autre mot anglais. Et il y a des enfants qui vont très mal le supporter et qui vont être totalement amorphes. Et ça, c'est un signe. C'est, plus ils respirent vite, plus ils vont se fatiguer et plus ils vont avoir besoin de notre aide.
Alors, quand on proposait de la kiné, c'était vécu comme une torture. Maintenant que la kiné n'est plus recommandée, on nous en demande. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un enfant qui aurait ou qui n'aurait pas de kiné prescrit par son médecin de ville ?
Non. Moi, en 3 ans, j'ai jamais... Allez. Peut-être une ou deux fois prescrit de la kiné en ville. Pas que j'aime pas nos amis kinésithérapeutes, c'est pas la question, c'est juste que la kinésithérapie n'a pas fait de preuve de réduction de la mortalité, de la durée d'hospitalisation des enfants.
On va pas guérir plus vite en tout cas.
Voilà. Après, ça peut avoir encore son utilité, je dirais plutôt pour des motifs de surveillance, pour des jeunes parents qui n'auraient pas l'habitude ou des parents qui n'auraient pas la capacité à surveiller.
Ils aident à bien les moucher parfois, moi je trouve c'est intéressant.
Qui peut aider, ça peut être une aide. Donc je ne ferme pas totalement la porte, mais comme j'explique aux parents, en dernière intention, si l'enfant il se dégrade, ça ne va pas être le kinésithérapeute qui va le sauver. Ça va être nous avec de l'oxygène. Ça ne va pas être autre chose.
En revanche, quand on fait 3 bronchiolites, on passe dans la catégorie asthme du nourrisson. Est-ce qu'on peut aider les parents à reconnaître justement quand un enfant fait une crise d'asthme, notamment lorsqu'il a fait quelques bronchiolites par le passé ?
Après, c'est une définition en fait. Alors bien sûr, on dit toujours que ça siffle, mais la bronchiolite, ça siffle aussi.
Ouais.
En fait, la définition, ça a très récemment changé, les recommandations. Maintenant, vous pouvez dire que si votre enfant fait une première bronchiolite après l'âge de 1 an, vous pouvez le classer en asthme du nourrisson et tester la ventoline.
Ouais.
Alors que, on va dire qu'après l'âge de 7 mois et que votre enfant a fait sa deuxième bronchiolite et que vous-même, vous avez des antécédents allergiques ou
ça
ils ont de
l'eczéma,
etc. On va tester, on va se dire ça va forcément évoluer vers un asthme du nourrisson.
D'accord. Et si on a un enfant asthmatique, pour le coup déjà diagnostiqué, bon, a priori, on sait à peu près quel est son traitement de fond, ce qu'il doit prendre de manière habituelle, puisque c'est une maladie chronique quand même. Mais s'il fait une véritable crise d'asthme, en gros, on doit donner de la ventoline, pour encore la citer. Mais au bout de combien de bouffées, on considère que... Parce que chaque année, je crois qu'il y a encore en France des décès par crise d'asthme,
toujours.
Des enfants qui décèdent. Donc à partir de quand on file aux urgences ?
À partir du moment où il est bleu marine. Non.
Alors avant d'en arriver là.
Avant. En gros, il faut appliquer un plan d'action asthme qui est très carré. Pour moi, on donne 4 bouffées de ventoline à son enfant, ce qui met à peu près 15 minutes à agir. On regarde comment il respire. Si c'est toujours difficile, on recommence 15 minutes après à donner 4 bouffées.
Et une troisième fois.
Et on commence une troisième fois. Mais attention, si au bout de la troisième fois, ça s'est quand même amélioré, on a besoin d'un avis médical.
D'accord, parce que c'était la troisième fois.
Voilà, donc, exactement. Donc on peut revenir.
Et si aucune amélioration au bout de 12 bouffées, ben là
tout
on court chez vous. Quoi,
et
c'est
pas
ça.
Forcément courir chez nous. Appelez le 15.
Oui.
Si l'enfant ne va vraiment pas
bien
on appelle le 15. Il faut qu'il vienne le chercher.
Vous rappelez un petit truc, alors tout bête ou pas, je ne sais pas, mais vous rappelez aux parents asthmatiques, moi qui ai connu l'asthme, ça m'a paru bizarre comme conseil, mais de bien secouer la bombe. Pourquoi ? Il y en a qui le font
tout
pas.
Tout à fait, en fait, parce que tout simplement parce que le produit à l'intérieur, il faut qu'il se mélange, qu'il imbibe le masque et la chambre d'inhalation. Il est d'ailleurs préférable pour un enfant, même pour les grands, moi j'hésite pas à leur dire de le faire en chambre d'inhalation, d'accord, parce
ça
que c'est très
efficace,
difficile à le
ouais.
faire tout seul avec le petit appareil. Donc moi je préfère avec en chambre d'inhalation et il faut secouer à
très
chaque
important.
Fois entre les bouffées.
Sinon, ça sert à rien.
Voilà. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est moins efficace. Et si on veut être le plus efficace possible et éviter les urgences,
on secoue.
Voilà.
Autre bobo du quotidien, lorsqu'un enfant tombe et se cogne la tête, est-ce que il y a quelques signes simples qui pourraient justement alarmer les parents et se dire, tiens, là, c'est le moment de consulter un peu rapidement.
La tête, ça fait peur hein, pour les parents, il faut dire ce qu'il y a. On a toujours peur du trauma crânien.
Oui. Après, pour les enfants, pareil, là, c'est des signes de gravité qui sont toujours très stéréotypés pour le traumatisme crânien. Si votre enfant, il a perdu connaissance, et c'est un petit indicateur, s'il ne pleure pas et qu'il reste par terre, c'est un bon indicateur.
J'aurais pensé, mais quand même, d'accord.
Voilà.
Après, une fuite de l'oreille, s'il vomit, ça aussi.
Une fuite de l'oreille, oui. Alors, surtout s'il a du sang, parce que ça peut être une fracture de la base du crâne, parce que ça ne doit pas fuir à ce niveau-là.
Dans les oreilles, il n'y a rien qui sort.
Exactement. ça m'inquiète beaucoup moins s'il saigne du nez, par exemple.
Ah oui.
Par contre, même chose, si l'enfant se met à vomir, et surtout s'il se met à vomir plusieurs fois. Parce que si vous venez de manger, que l'enfant il tombe, il vomit, Voilà, moi je pense que si je prends Jimmy et que je fais tomber là maintenant alors qu'il vient peut-être de manger, peut-être qu'il va vomir aussi. Et c'est pas un signe de gravité. Par contre, s'il se met à vomir plusieurs fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une trop de pression et il faut consulter.
Petite dernière chose, même si ça en ressort pas trop mal de cette chute sur la tête, mais qu'il a une bosse, ça peut arriver. Vous conseillez quand même de la palper, la bosse. Pourquoi il faut la palper, la bosse ?
Il faut toujours palper une bosse, même si ça fait mal à l'enfant. Et je sais que les parents y répugnent énormément parce que ça fait mal à leur enfant, mais non, il faut palper parce que en fait, il y a deux solutions. Soit la bosse, elle est dure et on est très content, il n'y a pas de problème.
C'est une belle bosse.
Soit, exactement.
Une bonne bosse.
Il y a une bonne, il y a les bonnes et les mauvaises bosses. Hein. C'est un peu comme les chasseurs. Voilà. Et après.
Et non, pourquoi ? Si elle est molle, il se passe quoi ?
Ah, je pensais que vous me demandiez sur les chasseurs de développer, mais j'allais dire de revoir le sketch des inconnus.
D'accord.
Mais non, pour, par rapport au fait qu'une bosse molle, ça veut dire que l'os en dessous n'a peut-être pas résisté.
Ah,
et dans
ouais.
ce cas-là, ça indique une fracture de la voûte du crâne.
Très bien, bah écoutez, ça nous a calmé, une bosse molle, on court aux urgences, pas pour rien. Merci beaucoup Toubib de nous avoir accompagnés cet après-midi, de nous avoir aidé à savoir comment identifier chez soi dans pas mal de situations ce qui relève vraiment d'une urgence ou pas, comment réagir. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que recommander votre livre très bien fait, un guide vraiment pour tous les parents, ça s'appelle Urgence hors notre urgence aux éditions First. Merci encore.
Europe.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Un point sur la pharyngite, ça peut toucher les grands et les petits, ça pour le coup. Mais surtout, savez-vous ce que c'est que le pharynx ? On fera un petit peu d'anatomie avec Jimmy tout à l'heure. A tout de suite sur Europe 1.
Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Aujourd'hui, t'as qui en philo ? On réunit trois profs de philo qui ont marqué l'histoire. Le philosophe de la Grèce antique Aristote, qui a enseigné durant 20 ans. Puis on change de classe et d'époque avec Arthur Schopenhauer, le philosophe du pessimisme. Et Michel Leeb, qui oui, a été prof de philo avant d'être humoriste. Comme quoi, alors à tout à l'heure, 16h sur Europe 1.
C'est l'heure du Conseil Citadine de Luc qui nous présente la Mitsubishi Space Star. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux, j'adore son design. Une vraie petite influenceuse.
Moi, c'est la garantie 5 ans qui m'a convaincu. Citadine spacieuse, pas de malus et accessible dès 6 990 € avec la clim.
Et l'aide au démarrage en côte, c'est bien pour toi ça.
Très drôle, enfin pas de débat. Mitsubishi Space Star, le choix est fait.
Sous conditions de reprise et d'éligibilité à la prime à la conversion. Détails sur mitsubishi-motors.fr.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la pharyngite. Vous avez peut-être déjà eu ça, comment la reconnaître très précisément. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est finalement le pharynx ? Où se situe-t-il ? Benjamin Lévesque vous a questionné sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Moi, quand on dit pharyngite, ce qui me vient à l'esprit... C'est tout de suite rhinopharyngite.
Le tube respiratoire, je pense. Donc le pharyngite, c'est une inflammation du tube respiratoire.
Donc rhino, c'est le nez. Pharyngite, ça doit être les pharynches, ça doit être les au niveau de la gorge.
Alors le pharynx, je ne saurais pas le situer. Je sais qu'il y a le larynx et le pharynx, mais je ne sais pas les situer du tout.
C'est derrière, là, avec le larynx, le pharynx. Je peux envoyer ça en SVT, mais je ne sais plus où c'est.
D'après ce que j'entends, ça doit se soigner par des gouttes dans le nez, peut-être.
Ça se soigne avec des antibiotiques, je suppose. Et pour ceux qui ne sont pas pros des antibios, je pense qu'on peut les traiter par des produits simples comme le miel, comme plein d'autres choses.
Bon, ben on a presque une ordonnance là, Jimmy. On va voir s'il y a du
c'est pas mal.
On va voir. La pharyngite, on en parle donc aujourd'hui avec vous. D'abord, on va aller peut-être prendre votre casquette de prof d'anatomie et nous expliquer où il se trouve ce pharynx, parce que c'est vrai que finalement.
Il se trouve dans la bouche, hein. Vous savez, ça semble plutôt simple. Alors, c'est le carrefour entre les voies respiratoires, quand vous allez respirer, et les voies digestives. C'est le fond de la gorge, grosso modo.
C'est une angine, alors ?
Alors, les amygdales reposent sur le pharynx, sur des piliers. Donc, les amygdales sont au niveau du pharynx.
D'accord.
Mais ce n'est pas tout à fait différent. En gros, vous avez le nasopharynx qui est en arrière du nez. Vous avez l'oropharynx qui est au fond de la gorge.
Alors, en plus, il est divisé en trois parties, ce pharynx.
Exactement.
D'accord.
Et puis, en dessous, vous avez le laryngopharynx, ce qui va séparer les voies respiratoires des voies digestives. Vous respirez, l'air va dans le larynx. Vous avalez, il passe par le pharynx et donc va ensuite dans l'œsophage.
Donc vous allez me dire si j'ai raison, quand on dit donc pharyngite, le it, ça veut dire quoi ? Une inflammation du pharynx. Je suis trop forte, ouais. Je vais prendre votre place.
Là, franchement, je pense qu'on aurait eu une hola et je pense que
bon,
vous pouvez
allez,
prendre effectivement
moi,
ma place.
Pharyngite, c'est quoi ?
Oui, alors c'est la pharyngite, c'est l'inflammation du pharynx.
Voilà, heureusement que je vous l'ai dit parce que vous n'étiez pas sûr.
Exactement. Alors, c'est souvent lié et c'est tout le temps lié à une infection virale. Donc, qui dit virale dit pas bactérien et donc. Pas d'antibiotiques, on ne traite jamais une pharyngite avec des antibiotiques.
Est-ce que c'est un truc plutôt de petit ? On vient de parler des enfants, donc oui, j'imagine que fréquemment, ils peuvent avoir des rhinopharyngites, donc forcément le pharynx est touché. Ou est-ce que les grands peuvent avoir ça aussi ?
Oui, alors c'est vrai que ça touche plus les enfants qui vont faire des rhinopharyngites, mais à tout âge, on peut avoir une pharyngite, c'est-à-dire avoir mal à la gorge, mais de façon assez modéré, c'est-à-dire que lorsqu'on avale un aliment, on a très mal, mais lorsqu'on avale sa salive, ça ne fait pas si mal. Si vous avalez votre salive et que vous avez terriblement mal, c'est que peut-être que vous avez une angine. Normalement,
d'accord.
La pharyngite s'accompagne souvent d'une rhinite, on a le nez qui coule, ça donne la rhinopharyngite, et à force de tomber malade, eh bien on développe une immunité, raison pour laquelle quand on grandit, on en fait très peu, ou
d'accord.
De temps en temps, on a des petites piqûres de rappel quand les enfants tombent malades, par exemple.
Alors, quand vous en rencontrez une de pharyngite au cours de vos consultations, qu'est-ce qu'on prescrit ? Alors, ne me dites pas un peu de patience, parce que vous avez dit pas d'antibiotiques, il faut faire quoi ?
Oui,
il y a quelque chose, donnez-moi quelque chose, docteur !
Par le mépris, on ne fait rien, on ne donne que des médicaments de confort. Mais quand on donne trop de médicaments, on n'est pas content, et quand on ne donne pas, on n'est pas content.
Okay.
Donc, on est assez exigeant. Mais c'est vrai qu'il faut soulager la douleur, donc c'est du paracétamol, jamais d'anti-inflammatoire. Ibuprofène, aspirine, on oublie, du miel, quand on a plus de 2 ans chez les enfants,
et on attend
un peu
10 jours,
de thé,
enfin
une tisane, et puis ça passe, on lave le nez, c'est surtout ça qu'il faut faire. Pas d'antibiotiques, et même si la douleur persiste, allez voir votre médecin, mais c'est pas pour autant qu'il vous donnera des antibiotiques.
Le miel, ça vous prescrivez pour le coup, c'est pas un médicament, mais ça peut...
C'est du confort, ouais. Il n'y a pas d'effet secondaire, ça peut vous soulager sous forme
jamais
de cuillère.
Jamais avant un an, par contre.
Exactement, en raison du risque de toxine botulique, donc ça peut vous soulager, ça fait plaisir à tout le monde, et puis... Ça calme un petit peu parce que c'est sucré, donc on aime bien le sucre.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage et cette ordonnance de conseil. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous bien sûr jusqu'à 16h et restez avec nous, hein, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors à tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous, bien sûr, depuis 15h. Le docteur Jimmy Mohamed est toujours là, fidèle au poste. Évidemment, il ne raterait cette chronique pour rien au monde. Et c'est Catherine qui rentre pour le plus grand plaisir de Jimmy, du coup, hein, puisqu'il est là pour vous, il ne reste que pour vous, Catherine. Catherine, vous êtes sexologue et psychologue. J'en fais un peu trop, peut-être.
Oui, un peu
voilà,
trop.
Vous êtes
un chouille trop.
À peine.
C'est pas mon genre, pourtant.
Non, mais Catherine... on y croit.
Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, la question de Mehdi. Alors, Jimmy, vous nous lisez cette question.
J'ai remarqué au fil de mes expériences que je ne jouissais jamais à la même vitesse. Parfois, il me faut une heure et parfois, en une minute, c'est réglé. À quoi c'est dû, Catherine ?
Bon, je ne suis pas psychologue ou quoi, mais bon, ça peut arriver en fonction de l'excitation. Il y a des moments où
ça va vite,
ça va vite, et
ça va moins vite.
Voilà, des fois on est pressé, des fois on n'est pas pressé.
Non, je sais pas. Oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que heureusement, bienvenue dans le monde des humains. On n'est pas des machines et c'est heureux. Et donc c'est un peu la surprise des moments.
Chef.
Ça dépend du temps que l'on a. Si on a quelques minutes avant de devoir faire quelque chose, si on a du temps, ça dépend de l'excitation. Ça dépend de ce qui se joue dans la relation à ce moment-là.
De si les enfants vont bientôt se réveiller.
Oui,
si...
et puis même ce qui se parle entre deux personnes aussi.
Bien sûr.
Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on a absorbé, mangé, qui fait qu'on est plus ou moins dans une capacité de se contenir, de se retenir ou pas, hein, selon que l'on boit de l'alcool, que l'on a fumé quelque chose. Ça change aussi tout à fait le rapport à son corps.
De toute façon, un rapport sexuel, c'est jamais la même durée. Enfin, je veux dire, avec la même personne dans un couple, il peut y avoir, on va dire, un classique qui est à peu près tout le temps pareil, mais ça peut parfois être très long et très court dans
bien
le même
sûr.
Couple, je veux dire.
Bien sûr, et puis il y a des moments où on est dans des émotions très différentes, donc parce que plein de choses, anxieux, énervé, et du coup, évidemment, que heureusement, le corps est au diapason de tout ça. Et alors, si en plus on change de partenaire, d'une partenaire ou d'un partenaire à l'autre,
là...
encore une fois, les choses sont très différentes parce que les enjeux sont différents. Arrêtons de vouloir imaginer que un homme est un homme s'il est dans une mécanique parfaite selon une idée que l'on se fait de ce qui devrait, se passer.
Est-ce que ça peut aussi dépendre des positions ? Il y en a peut-être certaines qui vont favoriser l'éjaculation et d'autres moins. Donc
c'est le médecin, la physiologie qui parle. Tout ça,
mais
là.
Elle a raison de parler la physiologie parce que c'est vrai
mais
que c'est
tort,
aussi ça. Mais bien sûr, parce que de toute façon, selon les positions, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas donc la même... possible anxiété, parce qu'il y a des positions qui laissent plus de liberté et d'autonomie, d'autres qui peuvent être perçues comme étant une domination sur soi, ou d'autres au contraire plus de responsabilité, plus donc d'anxiété vis-à-vis de l'autre. Et puis il y a aussi une musculature qui n'est pas mise en jeu de la même façon, et selon comment cette musculature agit, elle est plutôt prompte à une maîtrise de l'éjaculation ou au contraire à une rapidité d'éjaculation. Donc tout ça est vraiment, ça dépend aussi aussi de la lubrification, si on est dans un couple hétérosexuel, de la lubrification plus ou moins qui fait des conforts et des inconforts ou des anxiétés. Tout ça, c'est pas toujours maîtrisé par la personne elle-même et c'est plutôt charmant.
J'ai noté quand même que Mehdi dit que parfois il éjacule en une minute. Est-ce que ça fait de lui, de temps en temps, un éjaculateur précoce ?
Non, non, une minute, c'est court, mais c'est très long, vous savez.
C'est court quand même.
Excusez-moi, c'est court, mais c'est très long. Ça dépend, oui, vous avez la main sur une plaque en brûlante, une minute, c'est long, mais c'est dans un rapport sexuel, une minute...
Mais il exagérait peut-être un peu dans sa
question.
Non,
mais c'est-à-dire que tout dépend comment les choses se jouent. Imaginons que vous ayez absolument que quelques secondes ou une minute pour un truc un peu coquin, c'est délicieux, c'est excitant, et puis vous passez à autre chose. Évidemment que si c'est ça, dans un vide abyssal relationnel, c'est un peu court.
Minute de temps en temps pour éjaculer, c'est court, mais si c'était tous les jours, ça deviendrait problématique.
Si c'est jouissif pour les deux, encore une fois, l'éjaculation rapide, l'homme est fait pour être éjaculateur rapide. Donc,
rapide est très rapide quand même. Hein, parce
oui,
que là,
mais dans la mesure où, dans la mesure où chacun est au rendez-vous de ce qu'il a envie de jouer pendant un certain temps, tout va bien. Ce qui fait l'éjaculation précoce, et c'est toute la difficulté de le définir, c'est précoce par rapport à quoi ? Par rapport à mon plaisir, par rapport au plaisir de mon partenaire ou de ma partenaire. Mais sinon, si c'est très excitant, très jouissif...
Enfin, lui dit une heure, une minute, c'est quand même le grand écart
Je pense
absolu.
Mais encore une fois, je pense que...
C'est un peu exagéré, oui bien
lui,
sûr.
Lui, il veut montrer deux délais tout à fait opposés. Et du coup, j'ajoute là-dessus, évidemment que je ne suis pas en train de dire que ça devrait être génial, que ça dure une minute, pas plus que ça devrait être génial.
Aucun des deux sont très satisfaisants. Une heure
ou
une minute,
bien sûr,
c'est pas...
Bien sûr, on est évidemment pas dans ces tempos-là en réalité, mais c'est pour montrer qu'il y a des moments, ça lui apparaît très long, peut-être d'ailleurs pour lui-même trop long, ou pour sa partenaire, et des moments, ça lui paraît très court.
Bon, tout ça est très normal en tout cas.
Oui, et à lui de se poser la question, il repérera vite pourquoi ça dure très peu de temps à certains moments, pourquoi il est plus anxieux peut-être, ou pourquoi il est plus détendu, plus apaisé, ou plus ennuyé.
Très bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter tous les après-midi. Bonjour messieurs.
Bonjour
Mélanie. T'as qui en philo ?
Pardon ?
Vous avez eu un prof de philo. Ah, c'est Mélanie, vous êtes allé jusqu'au bac quand même.
Oui.
Donc vous avez probablement eu des cours de philo.
J'ai eu 18 au bac.
18 ? Elle a eu plus que moi.
Maintenant on le donne à n'importe qui.
À notre époque c'était plus dur. C'est pour ça que vous n'avez que 12 Stéphane probablement.
Aujourd'hui. Eh bien, dans Historiquement Vôtre, trois personnages qui ont donné des cours de philo. Ouais. Et oui, Aristote, évidemment, qui a créé une pensée. Et puis, Arthur Schopenhauer. Alors, la pensée d'Arthur Schopenhauer
est plus sombre,
plus sinistre, évidemment, moins accessible.
Voilà. Il y a toujours trois personnages dans notre émission. Et ouais, c'est Stéphane qui choisit. Donc, il prend deux personnages qu'il veut. Donc, lui, il a choisi Aristote et Schopenhauer. Et moi, il m'a donné Michel Leeb, qui a été prof de philo aussi.
C'est pas vrai.
Là aussi, il y a des choses à raconter.
Oui, mais parce que vous êtes beaucoup plus drôle.
Oui, c'est pour ça. Mais Michel Leeb aussi, oui.
D'accord. Très bien, que vous ayez une bonne note au bac.
Vous pouvez pas faire le chinois, là.
Le chinois, je peux faire l'africain si vous voulez.
Faites l'africain.
Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Toute une époque, évidemment. Il faut recontextualiser. On recontextualisera.
Alors, pour la philo, pour les imitations, surtout, n'hésitez pas à rester sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.